La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, comme chaque samedi soir, 30 minutes de débat, dans un rendez-vous laïque que vous propose à la technique Jacques Nizin et au micro Catherine Axe. Nous ne pouvons juger du degré de civilisation d'une nation qu'en visitant ses prisons, c'est Dostoïevski. Et oui, aujourd'hui, ce soir, on va parler, dans le cadre des journées nationales de la prison qui auront lieu du 12 au 22 novembre et auxquelles le CAL est associé, nous allons donc ce soir nous interroger sur le sens et le rôle de la prison. Et le but de ces journées, de la prison, est clairement de sensibiliser, d'informer, de faire des propositions par rapport à la problématique pénale et pénitentiaire. Le fil conducteur choisi pour cette année 2016 sera « Réinsertion, une illusion ». Alors pour mettre l'accent sur les difficultés liées à cette réinsertion, nous avons quatre invités aujourd'hui que nous sommes ravis de recevoir. Olivier Willox, tout d'abord, vous êtes économiste, bonsoir. Et vous avez été juge social au tribunal du travail et êtes actuellement administrateur délégué du BESI, Brussels Entreprises, Commerce et Industrie. Vous nous expliquerez comment peut-être le monde du travail pourrait aujourd'hui y réaccepter détenus et anciens détenus. Damien Scalia, bonsoir. Vous êtes professeur de droit pénal à l'ULB, expert à la Ligue des droits de l'homme sur les questions d'enfermement et co-rédacteur d'une étude sur le travail en prison qui sort là tout de suite à l'occasion de ces journées de la prison. Alessandra D'Angelo, bonsoir. Juriste de formation, vous êtes ex-avocate au barreau de Bruxelles, journaliste aujourd'hui d'investigation judiciaire, conférencière et auteur. Vous avez d'ailleurs une actualité chargée ce mois-ci. Deux livres sortent que l'on présentera tout à l'heure. Case prison, un jeu d'échecs et présumé coupable sur l'affaire Westphal. Voilà. Jean-Marc Mailly, pour terminer. Bonsoir Jean-Marc. Vous êtes entré, vous avez une histoire particulière à nous raconter ici. Vous êtes entré en prison à l'âge de 17 ans. Vous y avez passé à peu près 20 ans, c'est ça? Je ne me trompe pas si je dis, en ayant vu un bout de spectacle, 6197 jours précisément. C'est ça, à la suite d'événements dont vous allez nous parler. Alors aujourd'hui, vous vous êtes réinséré, vous avez recommencé à vivre et vous témoignez par l'écriture, mais aussi par le théâtre. Vous allez nous parler de tout cela. On écoute un court extrait.
Sentir ta tête exploser, sentir ta boîte crânienne sur le point d'éclater en morceaux. Sentir ta moelle épinière qui te remonte au cerveau à force d'être comprimée. Sentir ton cerveau comme un fruit sec. Se sentir sans cesse, et inconsciemment, et comme électriquement téléguidé. Sentir la cellule bouger.
Alors voilà, c'était un court extrait de votre spectacle que vous tournez, vous jouez actuellement, Jean-Marc Mailly. Vous êtes sur scène avec Stéphane Pirard dans une pièce coécrite, n'est-ce pas, avec Jean-Michel Van den Heyden, intitulée « Un homme debout ». Alors sur base de votre vécu, Jean-Marc, se réinsérer après une peine lourde, aujourd'hui, c'est possible, mais comment? Racontez-nous en quelques mots. D'ailleurs, on va peut-être reprendre un peu votre histoire.
Juste une petite parenthèse, c'est que depuis... 15 jours, je rejoue tout seul en fait. Donc Stéphane Pirard ne fait plus partie d'un homme debout. Donc j'ai décidé de rejouer tout seul en solo la pièce Un homme debout.
Donc
on est à 300 représentations, tout à fait.
D'accord.
Voilà.
Alors quelle est-elle cette histoire? Et qu'est-ce qu'on peut voir dans le spectacle de cette histoire-là?
La pièce Un homme debout est vraiment centrée sur les 3 ans que je vais passer au CDO de sécurité de Schrazik au Grand-Duché Luxembourg en isolement. Donc c'est la prison dans la prison. Donc ce que j'appelle, pas la prison dans la prison, mais une espèce de cimetière où ce ne sont pas des cellules, ce sont des tombeaux. Donc sur 10 personnes qu'on va mettre dans des conditions pareilles, il y en a un seul qui va s'en sortir nourri et grandi. Les 9 autres vont soit tomber dans la folie, sombrer dans la folie, se suicider ou sortir de là avec encore plus de haine qu'avant, puisqu'il n'y a rien qui est mis en place, effectivement, pour permettre à des gens de pouvoir canaliser leur violence. Donc la violence, c'est le bruit d'une souffrance qui n'est pas entendue. On ne va véritablement pas l'entendre. Moi, ce qui m'a sauvé la vie durant cette 3 années-là, c'est pour ça qu'on a fait la pièce de Un homme debout, on a voulu vraiment faire un exemple dans l'inexemplarité des actes. Ce qui va me sauver, effectivement, c'est que je savais lire et écrire, donc c'est véritablement l'art et l'écriture qui vont me permettre de me réveiller, en fait, et d'ouvrir cette part du rideau que j'avais pas ouvert, et de découvrir toutes les qualités que je possédais déjà à la base, hein, mais que j'avais jamais pris le temps de
donc
voir.
Donc sur place, en fait, là, vous couchez vos idées, vous couchez votre histoire déjà.
Exactement. Essayez de comprendre, en fait, quand j'arrive en isolement, je suis une victime, en fait. Je suis une victime de ma famille, de l'école, de tous ces gens qui m'ont rejeté, et si j'ai commis des actes, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. Et l'isolement va me faire prendre conscience qu'en fait, si je suis là, c'est d'abord, j'ai une très grande part de responsabilité par rapport à ça. Donc je passe de la victimisation, quelque part, à l'étape de la colère. quand on parle de justice restauratrice, c'est la colère. Quand on se met en colère, on se pose des questions. Donc on se pose des questions, ça nous bouleverse. Donc ça nous bouleverse, ça nous met mal à l'aise. Donc on essaie de trouver des réponses aux questions qu'on se pose. C'est vrai qu'on trouve des réponses, mais il y a des questions auxquelles on ne parvient pas à trouver de réponse. Et là arrive la troisième étape, en fait, qui est la résilience. Voilà. Mmh.
Alors pour se réinsérer, il faut forcément atteindre cette étape de résilience alors.
Pour moi oui. Pour moi oui, parce que sinon c'est ça le problème. Si je témoigne dans les prisons depuis une dizaine d'années, j'ai beaucoup témoigné avec Thierry Marchandise, qui est un ancien juge de paix, qui est notamment le procureur du roi de l'affaire Dutroux. Et quand on témoigne dans les prisons, on sort toujours de là avec ce sentiment de dire mais il y a 9 détenus sur 10 qui se victimisent, c'est pas de leur faute en fait. Le problème, c'est ce que j'essaie de leur expliquer, c'est que quand ils vont sortir des prisons, s'ils restent dans cette position de victimisation, quand ils vont sortir, ils vont vraiment être victimes du système dans lequel on réintègre cette société avec un casier judiciaire qui va leur fermer plein de portes. Aussi bien pour un boulot qu'aussi bien pour un déménagement. Vous savez, moi je vais vous citer trois chiffres, ils vont être très clairs. En 13 ans, c'est la 9e fois que je vais déménager. À 6 reprises, mes propriétaires m'ont vu à la télévision, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, monsieur, mais il m'a pas dit, c'est un ancien détenu. Oui, mais si je vous l'aurais dit, ben, je vous aurais pas pris. Ben, pour ça que je vous l'ai pas dit. En 10 ans, j'ai eu 10 contrats de travail, dont 6 et 4 quand on a appris que j'ai fait de la prison. Alors, c'est vrai, j'aurais pu arrêter là, mais il y a un troisième chiffre qui est très beau. Sur 10 portes auxquelles j'ai été frappé, il y en a 9 qui sont restées fermées, mais il y en a toujours une dixième qui soit ouvert pour ce que je suis aujourd'hui. Ces gens n'applaudissent pas mon passé, ils ont décidé de faire un bout de chemin avec moi. J'appelle cette dixième porte la porte de l'humanité. On ne rejuge pas une seconde fois quelqu'un à qui on a eu la chance de réintégrer la société dans laquelle on est. Voilà.
C'est pour ça que vous ne vous taisez pas, vous continuez à parler, même si certains vous voient à la télé et se disent « bon, ben, j'aurais peut-être pas dû louer mon appart ». Et d'ailleurs, vous ne vous taisez tellement pas que vous faites des conférences avec Alessandra. Comment est née cette union? Comment est née cette rencontre?
Mais anecdotiquement, elle a très très mal commencé, parce qu'étant journaliste d'investigation, il faut savoir que Jean-Marc Mailly déteste les journalistes. Donc quand vous l'appelez en général pour une première interview, c'est une fin de non-recevoir, donc il faut vraiment insister pour qu'il ouvre la porte, et la dixième parfois. Et puis voilà, j'étais en train de travailler à ce projet qui a enfin abouti au bout de 4 ans, qui est Casse Prison. J'avais porté un constat d'échec de notre système pénitentiaire pour l'avoir fréquenté, et je voulais porter à la connaissance du public qu'il y a des pistes pour que la chose fonctionne mieux. Et il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le sens. Comment donner un sens à la peine? Faut savoir que dans nos sociétés dites démocratiques, ben, la seule sanction qu'on a trouvée pour punir quand on se met hors la loi, c'est la privation de liberté, mais ce n'est pas la privation d'humanité. Il faut savoir que toutes les personnes qui sont en prison conservent tous leurs droits, y compris les droits civiques, sauf s'ils sont déchus, mais c'est rare. Donc le droit de vote, le droit à travailler, le droit à voir sa famille, le droit à se reconstruire, parce que la peine, elle a été donnée par la justice, par une juridiction judiciaire. Donc la société n'a pas à punir deux fois. Et peut-être pour poser un petit peu les choses aujourd'hui, ce constat d'échec, je vais vous le donner très rapidement en quelques chiffres. Nous avons une population carcérale de 15 000 détenus aujourd'hui. Ils étaient 8 000 en 2008, donc cette population ne cesse de croître. Des spécialistes ont bien démontré qu'au bout de 3 ans de détention, la prison ne sert plus à rien. Vous développez des tics, des tocs, des psychoses, des pathologies. Donc au bout de 3 ans, ça ne sert strictement à rien. Vous avez un détenu sur 10 qui arrive à se réinsérer. Vous avez 66% de récidives dans les 3 ans de la sortie, alors que dans les pays qui choisissent la justice restauratrice et la réinsertion, comme la Norvège, le Danemark ou la Suède, on a 90% de réinsertion réussie. Un détenu coûte 30 000 euros par an, alors qu'on a fait des études démontrant qu'avec le tiers de ce montant, on peut réinsérer. Chez nous, on construit des prisons.
Qui sont de plus en plus grandes. Hein, le master plan exactement. Prison de Koongens.
On a 44 prisons en Belgique. Et il faut savoir que, paradoxalement, on est, après le Luxembourg, le plus petit pays d'Europe. Et on est le pays qui a le plus de prisons au kilomètre carré dans toute l'Union européenne. Et dernier chiffre qui est aussi important, c'est qu'on a plus ou moins 20 000 enfants aujourd'hui qui ont des parents en détention. C'est ce qu'on appelle aussi les dommages collatéraux, parce qu'il y a la personne qui est détenue, mais est également emprisonnée toute la famille à l'extérieur, de par les stigmates sociaux. Et il faut savoir que sur ces 20 000 enfants qui ont des parents en détention, un tiers de ces enfants deviendront des détenus eux-mêmes. Voilà, ça c'est les chiffres en gros.
Qui pointent bien le problème. Et alors, les journées des prisons donc, qui vont arriver, ont comme thème cette année réinsertion. Est-ce que la réinsertion, c'est forcément par le travail qu'on peut la trouver, Alessandra ou Jean-Marc Mailly, que pensez-vous de ça ?
De toute façon, quand vous avez une libération conditionnelle, vous êtes obligé d'avoir un travail ou une formation, vous êtes obligé d'avoir un logement.
Alors, comment trouve-t-on du travail une fois qu'on est en prison ?
C'est très
pour
compliqué,
moi,
en fait.
La réinsertion, si tu permets, la réinsertion... commence par l'éducation et la culture. Hein, Victor Hugo disait toujours qu'ouvrir une école, c'est fermer une prison. Et l'école du savoir aussi, de la connaissance. Jean-Marc, il a eu 6 diplômes, je pense, en prison. Donc d'abord, étudier, apprendre, s'informer, achalander les bibliothèques pénitentiaires, développer des ateliers de travail. Quelqu'un qui s'ouvre l'esprit, quelqu'un qui étudie, se socialise. Et il prépare sa sortie. Et puis, il faut un accompagnement psychologique, il faut un accompagnement social.
Il faut un soutien. On dit déjà que pour des enfants, des élèves, des étudiants, avoir le soutien de sa famille quand on est aux études, c'est important. Mais alors en prison, a fortiori. On
Mais c'est pour ça que je dis toujours que la problématique pénitentiaire ne sera résolue que si pour moi 4 ministères se mettent autour de la table. L'éducation, l'enseignement, la justice et la politique pénitentiaire. Si les 4 acteurs ne se mettent pas au niveau de nos politiques autour de la table et que chacun reste de son côté, et si surtout le politique n'écoute pas ce que les acteurs de terrain ont à dire, donc les gens qui travaillent en prison, les détenus, les agents pénitentiaires, les aumôniers, les psychologues, et y compris les professeurs d'université qui sont excellents, mais on en reste au niveau des thèses, il faut allier toutes ces connaissances avec le terrain pour que cela fonctionne.
Jean-Marc, faites-nous rêver. Qu'avez-vous décroché comme diplôme en prison?
Je suis rentré avec mon diplôme de l'école primaire. Donc d'abord, j'ai
décroché... Vous aviez 17 ans, voilà, rappelez.
J'avais 17 ans, malgré que j'ai fait 14 écoles différentes avant de rentrer en prison. Donc j'ai d'abord eu mes 3 années de secondaire inférieure, puis j'ai décroché un diplôme d'opérateur de saisie. À l'époque, c'était l'ordinateur avec les grandes disquettes, avec le DOS, le MS-DOS, c'était l'enfer, mais c'était génial. Et puis j'ai eu deux diplômes d'opérateur en 3D. En DAO, et puis j'ai un diplôme de chant, d'horticulture, d'électricité aussi. Et ça m'a permis, quand je suis sorti de prison, parce que je savais que j'ai fait pour le social, d'entamer mes études pour devenir éducateur. Et depuis 2008, je suis un éducateur un peu atypique, hein, donc je me considère comme un éduc. Apostrophe, acteur.
Voilà. Un éducateur,
voilà,
pas mal.
Exactement.
Super. On va se tourner vers Damien Scalia, professeur de droit pénal. Donc, alors, vous venez de co-écrire une étude sur le travail en prison, qui est assez éloquente. Qu'est-ce qu'on en retire de cette étude qui sortira dans quelques jours ?
Alors, c'est une étude qui a été faite sous l'égide de la Ligue des droits de l'homme et en fait qui reposait sur un postulat qui était de demander aux détenus ce qu'ils pensaient de leur travail en prison. On avait, nous, nos idées sur la question. On avait les normes qui existaient sur la question. Et en l'occurrence, il n'y a pas beaucoup de normes, en tout cas au niveau national. Et l'idée était en fait de savoir, de ne pas porter une voix qui n'était pas la nôtre, mais de porter leur voix et de savoir donc ce qu'ils en pensaient. On a fait passer... quelques centaines d'entretiens dans 7 prisons, dont Ytres, Forêt, et on a eu environ entre 150 et 200 répondants. Et il en ressort un gros paradoxe, c'est que les détenus souhaitent travailler, et c'est quelque chose qu'ils mettent beaucoup en avant, souhaitent travailler pour un apprentissage, souhaitent travailler simplement pour sortir de la cellule, pour avoir des relations sociales, comme certains ont pu nous le dire, pour garder un rythme, et c'est les mots qu'emploient les détenus eux-mêmes. Certains nous expliquaient à l'écrit ou aussi oralement, puisqu'on est allé en voir plusieurs, nous expliquer que ça leur permettait le matin de se lever, de se changer, de faire comme s'ils allaient au travail, puisqu'ils vont au travail. Retrouver une journée classique comme à l'extérieur. Et donc ça, c'est important, il faut le garder en tête, et ça doit être donc perfectionné. Pourquoi perfectionné ? Parce que tous, par contre, donnent un avis tout à fait négatif de ce travail en prison. Un travail qui est, il faut le rappeler, fait sans contrat, sans sécurité sociale, sans mise en place d'un pécule pour la pension, rien que ça. Il n'y a aucune reconnaissance en fait de ce travail en prison par les autorités, donc il ne peut même pas être mis en avant par la suite. Une grande opacité, rien que dans le fait d'avoir accès au travail. Il faut savoir que les personnes qui ont accès au travail dans l'ensemble des pénitentiaires belges sont moins de 40%, et que les personnes souvent se demandent comment elles ont accès au travail, parce que soi-disant, en tout cas, on nous dit qu'il y a des listes d'attente, mais en fait, on n'en a pas la preuve, ou en tout cas, les détenus eux-mêmes disent que s'ils s'entendent bien avec le gardien, avec le surveillant, s'ils s'entendent bien avec la direction, ils peuvent plus facilement avoir accès au travail. Donc, un gros problème d'opacité, un problème de sécurité aussi dans les ateliers, et puis, un gros problème, c'est que la plupart des travaux ou du travail qui existe dans les lieux privatifs de liberté ne sont pas formateurs. Il s'agit de faire des paquets de chips, par exemple, sans donner de marque. Il s'agit de faire des petits paquets pour des tringles à rideaux. Il s'agit, enfin, rien n'est vraiment formateur. Et vous avez deux principaux travaux en prison. Donc le travail pour des entreprises extérieures et le travail pour la pénitentiaire elle-même, où là, les personnes vont remplacer un cuisinier ou aider les cuisiniers, faire le linge, faire le ménage dans la prison. Mais peut-être que Jean-Marc pourra nous en dire un peu plus à ce niveau-là. Et puis une opacité aussi dans les entreprises qui embauchent les détenus, alors même que finalement ça pourrait être une sorte de label humaniste, comme vous le disiez tout à l'heure. Les entreprises ne veulent pas que ça se sache. Donc on n'a pas pu avoir la liste, ni par les entreprises, ni par l'administration pénitentiaire. Certains nous ont dit qu'il y avait à peu près 1000 entreprises qui embauchaient des détenus en détention en Belgique. Je ne peux pas vous confirmer cette liste. En tout cas, nous, on a quelques noms d'entreprises dont on taira le nom, puisqu'elles-mêmes ne veulent pas que ça se sache.
Elles ne sont pas très droites dans leurs bottes. Ou alors, il y a une sorte d'exploitation. Il y a rémunération ou pas ?
Alors voilà, ça c'est le dernier point important. C'est qu'il y a effectivement un contrat passé, non pas avec les détenus, donc avec les travailleurs, mais un contrat passé avec l'administration pénitentiaire, avec la régie du travail pénitentiaire. Contrat dont il semble, mais là encore, les chiffres ne nous ont pas été communiqués malgré nos nombreuses demandes, dont il ressort que l'entreprise elle-même paye un certain montant. Alors on a des chiffres qui vont entre 6 et 8 euros de l'heure à la régie pénitentiaire. Le détenu, lui, touche entre 80 cents et 1,20 euros de l'heure, selon s'il travaille à l'heure, s'il travaille à la pièce ou quoi. Donc en fait, on a déjà là une partie.
Et c'est
du dumping social aussi.
Oui, voilà.
Alors il y a une question de dumping social. Le détenu qui travaille rapporte aussi à la régie pénitentiaire. Où part cet argent ? C'est une question qu'on a aussi posée et on n'a jamais eu la liste d'où va toute cette manne financière. Il n'en reste que le détenu, lui, et là ils nous l'ont dit très clairement, voit ça, certains nous ont parlé de travail forcé, d'exploitation, d'esclavage, moderne en tout cas.
Parce qu'on ne choisit pas non plus son domaine. On ne choisit pas grand chose en fait.
La réinsertion aussi. En fait, quand vous êtes admissible à une conditionnelle, la première chose qu'on vous demande, c'est un logement. Donc une domiciliation et un logement. Quel est le détenu qui peut donner aujourd'hui 2 mois de garantie locative pour trouver un logement ? Donc c'est le chat qui se bouffe la queue. Si on ne peut pas économiser et travailler légalement avec les mêmes droits que les personnes qui sont à l'extérieur dans la société civile, comment est-ce qu'on peut se réinsérer ? Si on n'a pas une femme qui a bien voulu vous attendre ou un père ou une mère qui veulent encore bien vous recevoir ? Donc on bloque même la réinsertion.
Avant que Jean-Marc témoigne aussi, merci Alessandra. Je voudrais peut-être un mot d'Olivier Willox, qui quand même notre économiste là autour de cette table, en tant qu'administrateur délégué du BSI, donc Bruxelles, je rappelle, Bruxelles Entreprises, Commerce et Industrie. Qu'en pensez-vous ? Que pourrait faire le monde de l'entrepreneuriat pour un, aider, et deux, être plus clair par rapport à ça ?
Mais moi, je vais commencer. On peut commencer par le secteur privé, mais je pense qu'il est d'abord sain de commencer par le secteur public. Pourquoi est-ce que l'autorité publique a un jour déclaré qu'il était juste interdit de travailler pour le secteur public, quelle que soit la nature de l'infraction. On comprend bien qu'un pédophile ne veut pas travailler dans un pensionnat d'enfants. Je pense que c'est une bonne idée, mais il y a un lien entre le motif de l'incarcération et le type d'activité. Mais ça ne doit pas être limité d'ailleurs au secteur public. Je pense que c'est assez logique que l'école soit publique ou privée, que ce soit pas une bonne idée. C'est pas un statut. Là, je pense que le débat est effectivement un peu curieux. C'est de dire, à un moment donné, j'ai commis un crime, je sors de prison, je peux pas être balayeur dans une commune. Je comprends pas la logique, parce que d'autant plus que c'est le pouvoir public qui a la mission de la réinsertion, la mission de la formation en prison, la mission de... Et en fait, pour être simple, il a le contrôle de tout. Et donc, on a la majorité de l'économie, en tout cas sur Bruxelles, qui dit « pas chez nous ». Alors, la question, c'est évidemment, ça vient forcément d'un secteur privé, pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, j'ai pas de raison, mais commençons par ce qui est important.
On va se poser cette question-là, se dire...
Il y a deux débats. Le premier, c'est qu'effectivement, ça fait peur, et l'entreprise est très soucieuse de sa réputation. On parlait des incidents récents du mois de mars, mais tout le monde était à se demander, y compris les journalistes avec les situations, chez qui est-ce qu'il travaillait bien, histoire d'associer en fait quelque part l'image de l'entreprise à là où travaillaient ceux qui étaient les plus recherchés en Belgique. Et donc c'est clair que cette espèce d'image de peur ou de sentiment de peur qui n'a pas forcément de sens, mais il est vécu. C'est clair que si vous avez... Je comprends aussi que certaines sociétés de sécurité n'aient pas envie d'engager des monteurs d'alarme qui aient fait 12 ans de prison pour vol. Enfin, il y a une logique, mais c'est donc cette image-là, il faut pouvoir la casser à travers la nature de l'infraction au regard de la fonction qu'on pourrait avoir.
Mais est-ce qu'une entreprise y gagne ? Est-ce qu'une entreprise gagne, de l'argent sur le dos d'un détenu ?
Non, il y a deux débats. Il y a la question des détenus et puis il y a la question pour moi de l'après. on peut discuter d'abord alors de la question en prison. C'est clair que nous avons des états d'âme. On comprend bien, et je ne suis pas du tout surpris parce que les expériences que nous avions déjà en prison, qui étaient plutôt très contents de pouvoir travailler, d'avoir le droit de travailler en prison, même si c'est pour 87, et on peut discuter, je pense qu'il y a effectivement exploitation, moi, en tout cas, l'absence de contrat de travail me pose moins un problème, c'est dans, quel est le cadre de la relation. Et ça, je pense que j'ai vraiment du mal à ce qu'il y a. Alors, on peut discuter pension ou pas pension, je peux discuter retenue ou pas retenue, mais au moins que ce soit clair avec quelque chose qui est a priori opposable au tiers, et qu'on comprenne le cadre dans lequel on est. Je comprends qu'il y ait une retenue parce que on n'est pas non plus, on peut aussi contribuer à son propre coût. J'ai pas de souci là-dessus, mais que ce soit clair, et aujourd'hui, force est de constater que ça ne l'est pas. Des chambres de commerce avaient organisé dans le sud du pays des rencontres avec les opérateurs des entreprises qui pouvaient le faire à moindre coût. Ils l'ont tous annulé vu le tollé que ça avait généré. Mmh. Donc, cette question n'est pas tranchée, et je crois que le minimum, c'est que les règles doivent pouvoir être claire, transparente, communicable, communiquée. Alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout des choses? Je n'en sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, on demande en tout cas la transparence là-dessus, parce que ce n'est pas ça, y compris sur la question de la concurrence.
Parce qu'en Hollande, ils le font.
Bien sûr.
Depuis l'année passée, en plus, on est arrivé à un système où on a reproduit l'équivalent de la société civile en prison, c'est-à-dire qu'il y a un contrat, le détenu en Hollande travaille, et il paye cellule, il paye sa cantine, donc ce qu'il achète à manger. Donc on a reproduit la société civile en petit,
en prison. De la prison.
Voilà, et il a sa pension.
C'est une réinsertion aussi.
On commence là, voilà, à la base, donc c'est faisable.
J'aimerais juste dire aussi qu'il faut savoir qu'on a quand même fermé les ateliers protégés en Belgique parce qu'ils étaient payés 10 euros de l'heure, et on fait la différence, un détenu est payé 1 euro de l'heure. Et ça pose un problème à la société.
Il faut calculer le coût à l'employeur. Parce que
tout à fait.
La question, mais de toute façon, je pense qu'effectivement, 5 euros de l'heure aujourd'hui, c'est certainement indécent, que ce soit par rapport à n'importe quel tarif. Mais ne discutons peut-être pas sur les montants. Je pense que le premier principe, c'est la transparence, et que ce soit clair et que ce soit... transparent, et ça ne l'est pas. Après, on peut encore se poser la question, est-ce que c'est normal qu'un détenu contribue, indemnise, enfin, il y a tout ce débat-là qui est aussi...
Mais transparent et formateur, comme on le disait.
Je ne suis pas encore sûr, parce que je ne suis pas sûr qu'on arrivera à trouver systématiquement des métiers qui soient formateurs. Je pense qu'il y a pas mal de gens en prison qui sont contents, vous l'avez bien dit tout à l'heure, de se lever et de faire une tâche. Il y a plein de gens qui sont très contents de faire des tâches répétitives parce qu'ils sont dans leur pensée, et ça leur donne du sens. Je pense qu'effectivement, c'est un travail de type répétitif. Forcément, la rémunération pourrait être différente d'un travail formateur, parce qu'effectivement, un vrai travail formateur avec un réaccompagnement coûte cher à la personne qui le fait.
Aux États-Unis, je m'excuse de vous interrompre, par exemple, Microsoft, ils ont trouvé un truc génial, et il y a plusieurs grosses boîtes qui le font. Ils forment des détenus en prison, donc ils investissent dans le détenu, ils payent même les études universitaires avec promesse d'engagement à la sortie dans la dite société, et la société, en contrepartie, reçoit des abattements de charges sociales sur cette personne dans laquelle elle a investi en prison.
Je suis assez preneur de ce type de réflexion.
Mais vous savez, il y a quelques années ici en Belgique, la Belgique a participé, on a reçu un fonds européen où les employeurs, il n'y en a pas eu beaucoup, suivaient des détenus qui étaient déjà en prison, les formaient et les engageaient à leur sortie. Ça a du sens. Oui, cette violence du temps perdu a du sens. Donc un gars qui est rentré sans aucun diplôme est formé en prison, et quand il sort est engagé par un patron.
Jean-Marc Mailly, c'est ce qu'il aurait fallu pour vous. En fait, vous êtes entré à 17 ans, vous ne connaissiez rien de la vie, entre guillemets, tant soit peu qu'on connaisse à 17 ans. Et puis, vous avez fait des études, vous êtes formé tout seul. Est-ce que vous avez été aidé? Est-ce que vous avez appris un métier en prison? Et puis, est-ce que vous avez trouvé facilement votre premier emploi à 40 ans?
Non, le premier emploi, j'ai été plongeur dans une grande chaîne de télévision dont je vais taire le nom, parce qu'ils m'ont viré une fois qu'ils ont appris qui j'étais, et le patron qui m'avait engagé 2 ans plus tard sera viré pour avoir détourné 1 million d'euros à cette chaîne de télévision. Donc, mais voilà, c'est comme ça la vie. Mais ça m'a permis de continuer à avancer, en fait. Mais je pense que chaque expérience qu'on prend dans la vie, même si à cette porte se ferme là, vous en retenez toujours quelque chose de bon. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux jeunes que je rencontre. Une porte qui s'ouvre, vous prenez quelque chose, elle se referme, retenez-en quelque chose d'essentiel. Ça vous permet d'avancer. Donc ça veut dire que je n'étais pas fait pour ça. Je n'étais pas fait pour être le meilleur plongeur du monde. J'ai continué à avancer et j'ai rencontré d'autres personnes. Et des personnes qui vous tendent la main et vous découvrez d'autres choses, en fait. C'est ça qui est excellent, quoi. Voilà.
Mais il faut une main tendue.
Moi, j'ai eu 2 visiteurs de prison. Pour ça, j'adore remercier ces gens-là dans Un homme debout. Ce sont des passeurs d'humanité. Parce que vous savez, au plus tôt vous rentrez en prison, au plus longtemps vous y restez, pour une administration pénitentiaire, au plus tôt vous rentrez en prison, au plus tôt vous avez été à l'université
de la vie.
Du crime, en
du
fait.
Crime.
Donc voilà, mais ça n'a pas été ça. Et je me souviens toujours, parce que Madame D'Angelo a fait son bouquin Casse-prison pendant 4 ans, et notamment à la prison d'Ile, où c'était Madame Lebrun. C'est la directrice qui m'a libéré. Et mes amis me l'ont annoncé 6 mois avant la fin de ma libération conditionnelle. Donc 9 ans et demi en étant dehors. Et quand j'ai été libéré le 16 septembre 2003, elle a dit à mes amis, Jean-Marc Mailly, dans 6 mois, il est de retour. Donc j'ai eu un grand plaisir, le 16 septembre 2013, 10 ans plus tard, de l'appeler.
Non, je suis
Madame
pas là.
Lebrun, j'espère que vous allez rencontrer beaucoup de Jean-Marc Mailly qui sont révoltés. On sait qu'on a des devoirs en prison, mais on a aussi des droits. Et voilà, c'était... Mais je l'ai rencontré à plusieurs reprises, on a fait quelques conférences ensemble.
Bien sûr. Damien Scalia, que faire de ce rapport maintenant? Le présenter à qui, quoi, comment? Et que dessiner comme perspective d'avenir?
Mais les perspectives ne sont pas très... pas très réjouissante, hein, qu'on soit clair. Il y a de ça maintenant un an, peut-être un an et demi, le législateur a fait passer dans la loi qu'il n'y avait pas de contrat de travail pour les détenus. Donc en fait, ça a été inscrit noir sur blanc. Et aujourd'hui, revenir là-dessus va être très compliqué. L'objectif du rapport, c'est déjà de porter la voix des détenus à l'extérieur des murs. Et je pense que si on y arrive, on aura déjà fait un grand pas et on aura déjà gagné à ce niveau-là. Pouvoir discuter avec les entreprises, pouvoir discuter avec la régie pénitentiaire. Et puis, essayer d'empêcher cette opacité, ou en tout cas d'éclaircir, d'avoir un peu plus de lumière sur tout ce qui se passe. Même si, in fine, la prison reste la prison. On aura beau amener tous les travaux, tout le travail possible, la prison restera la prison, avec toutes ses privations, avec toutes ses frustrations, avec tous ses problèmes. Et la réinsertion par la prison, c'est aussi une illusion. Donc il faut aussi le garder en tête. Maintenant, on peut amener quelques formations, on peut amener quelques aides, des soutiens, comme Jean-Marc le dit, comme ça se fait dans les pays du Nord. Mais les pays du Nord, en fait, si vous prenez, et c'est l'exemple qui était donné tout à l'heure, la Norvège, la Finlande ou le Danemark, si on prend ces pays-là, il est vrai qu'il y a des formations, il est vrai qu'il y a du travail, mais la plupart du temps, les personnes sortent la journée pour aller travailler à l'extérieur et elles dorment après en prison. Alors nous, on connaît ça dans une moindre mesure en fin de peine, mais en fait, pourquoi l'appliquer fin de peine? Alors que là, on est vraiment dans la société. Et en fait, le problème de la prison reste quand même qu'on enlève des personnes de la société et puis du jour au lendemain, plus ou moins, on leur dit, voilà, vous réintégrez la société.
Sans préparation.
Et en fait, il faut essayer d'empêcher ça, mais dès le début. Et dès le début, au lieu d'amener du travail en prison, amener les détenus au travail, à l'extérieur, pour qu'ils aient le rythme pour qu'ils aient les contacts sociaux, pour qu'ils aient le rythme et qu'ils se forment, effectivement, dans la mesure du possible.
Olivier Willox, vous pensez que les entreprises pourraient un jour être prêtes à cela, à donner un vrai travail, une vraie formation à des détenus ou anciens détenus? Et faire le lien.
La question des détenus, je crois qu'il faut...
Pour un mot de la fin.
En tout cas, je plaiderai en tout cas pour que... Alors, s'il n'y a pas un contrat de travail, qu'on invente la notion de contrat, pas de travail, enfin, je veux dire... mais je pense qu'il faut un contrat. Que ce soit... Et qu'on constate bien la volonté du...
Et vous sentez qu'il y a une volonté chez les chefs d'entreprise, non, que mais, ça pourrait humaniser un peu la
société? Je pense que c'est d'abord un débat qui doit avoir avec le ministère de la Justice ou de l'Intérieur, mais...
Pour mettre des cadres, d'abord.
Et en tout cas, que ce soit pas un contrat de travail au sens de la loi de 78, moi, ça me dérange pas, mais que ce soit en tout cas un contrat qui puisse être constaté avec un minimum de balises. Le statut, si on doit le licencier, peut-être que le délai de 6 mois, peut-être que les modalités
cadre,
en matière de licenciement dans un cadre pénitentiaire, c'est difficile parce que comprendre les types de sanctions peuvent être différentes que dans une entreprise. J'ai pas de souci avec ça. Le vrai débat qui se pose, c'est que... Et je pense que les entreprises sont très conscientes de ça. D'abord parce que on a tous des relations qui ont fait une petite case prison et donc on les regarde toujours avec un regard parfois un peu humain parce qu'il y a le contact relationnel. Mais fondamentalement, le débat, c'est quoi? C'est que il faut effectivement éviter tous les mécanismes de double peine et de faire en sorte que les gens aient le sentiment que la prison est servie à quelque chose. Parce que tant qu'on a le sentiment, et c'est le discours, c'est la dangerosité du discours sur ça ne sert à rien, il n'y a pas de sens en prison, ça fait effectivement peur à la société qui est restée en dehors. Et ça, je pense qu'il faut effectivement, quand la prison aura du sens, qu'elle aura été formatrice, je pense que tout ira bien plus facilement de côté.
Un mot de la fin, Jean-Marc Mailly et Alessandra D'Angelo, peut-être nous dire où on peut vous voir, en conférence et sur scène. En conférence d'abord, Alessandra.
Alors, en conférence, vous pourrez nous voir le 15 novembre à Louvain-la-Neuve, le 22 à Welkenrad et le 11 novembre à Liège. Mm-hmm. Donc, il y aura la pièce de Jean-Marc Mailly pour deux des jours et son film documentaire Vers une inconditionnée de liberté, suivi de la dédicace de nos livres. Et moi, je terminerai simplement en vous disant que Albert Camus disait déjà, et c'est il y a longtemps, que pour évaluer l'état d'évolution d'une société, il faut regarder ses prisons.
Ce sera le mot de la fin. Merci, Alessandra. Alessandra, de nous l'avoir choisi. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation. C'est court pour parler de ce genre de sujet, mais voilà, nous sommes pris par le temps. Rappelez peut-être pour ceux qui auront envie de découvrir plus loin tous les débats, le programme des Journées nationales de la prison sont sur le site www.jnp-ndg.be, mais aussi toutes les conférences du Centre d'Action Laïque sur www.laïcité.be. À très bientôt et bonne soirée à tous.
En quête de sens
sur la première.